Vous écoutez
RMC.
Messieurs, vos trois points suite à cette rencontre.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Damien Perrine.
Eh ben, rendons hommage justement à l'homme qui est porté en triomphe actuellement, qui est Lopetegui, parce que c'est vraiment sa victoire. Il est arrivé
en larmes, hein, Lopetegui.
En début de saison, encore une fois, avec un gros renouvellement d'effectifs. Et chapeau à lui de terminer troisième de la Liga, qualifié pour la Champions League, et en plus de ça, vainqueur d'une Coupe d'Europe. Donc vraiment, saison pleine. Ensuite, mon deuxième point, c'est un Inter surprenant. Surprenant, car... quand tu vois le dispositif tactique, tu te dis que tout va rouler pour eux. Ils ont tout pour eux dans ce match. Ils marquent en premier. Et finalement, c'est très rare de voir l'Inter qui encaisse 3 buts. Et de la manière dont ils ont encaissé, surtout, c'est, on n'était pas habitué à ça. Et mon dernier point, c'est le club de Séville en général. C'est quand même un club assez particulier. Nombre de Coupes d'Europe gagnées dernièrement. C'est respect et bravo.
Jonathan.
Écoute, le premier point, c'est la victoire d'un collectif. Damien a parlé dans ses trois points de Lopetegui. Oui, effectivement, on a vu une très belle équipe. Je pense qu'individuellement, c'était peut-être pas la meilleure, mais ils ont montré que le sens, que le football est avant tout un sport collectif, et c'est un très beau vainqueur d'une très belle Europa League. Le deuxième point, je suis obligé de passer un peu un de mes joueurs chouchous des 10 dernières années. C'était son dernier match en Europe, et Vrbanega fait un gros match dans l'engagement, il a dans la motivation, il a incarné l'âme de cette équipe sévillane, et je suis content pour lui qu'il quitte l'Europe sur un dernier trophée européen. Et mon troisième point, j'en parlais en introduction, c'est un bien triste Bordeaux-Nantes. Alors oui, il y a des explications, le match de reprise, premier match, etc. Mais ce qu'on a vu dans les intentions de jeu me laisse penser quand même que voilà, ces deux équipes risquent d'être un petit peu pénibles à suivre toute la saison.
Merci Jonathan pour mes trois points. Personnellement, moi j'ai noté Antonio Conte en plus, c'est-à-dire la première période. Globalement, on a la sensation qu'il est sur le point de gagner tactiquement son changement. Mais j'ai aussi noté, comme deuxième point, Antonio Conte en moins. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, eh bien, Lopetegui a su gagner cette rencontre. Et Conte n'a pas su, lui, s'adapter et se mettre au niveau de Lopetegui. Et puis quand même, De Jong, double buteur. C'est un attaquant que j'aime beaucoup.
Et qui n'était pas titulaire jusque-là en Europa League.
Non, titulaire aujourd'hui.
L'international marocain.
Ouais, Nesyri. Effectivement, et aujourd'hui il met une magnifique tête plongeante, et la deuxième tête, c'est quand même un bijou, sachant que j'ai toujours estimé que la tête était le geste le plus difficile du football. Chapeau à lui. Voilà pour aller à les trois points. Plus globalement, messieurs, on parlait de Séville, c'est un point soulevé par Damien. Jonathan, on se faisait cette remarque, c'est hallucinant de voir un club capable de remporter 6 fois cette compétition en aussi peu de temps.
Alors en fait, je trouve que c'est super intéressant, Tim, merci de me lancer là-dessus, parce que ça souligne une chose, une intelligence que certains clubs en Espagne ont, au Portugal aussi, c'est de considérer l'Europa League comme une vraie Coupe d'Europe, qui est une vraie belle ligne à un palmarès. Moi je pense qu'un club par exemple comme Lyon aurait dû déjà gagner une Europa League. Tu vois, en termes d'accessibilité, en termes de concurrence, je pense que c'est une Coupe d'Europe qui aurait dû déjà, que Lyon aurait dû déjà gagner. Et c'est hyper important, je trouve, qu'un club comme ça, un beau club, parce que Séville c'est un beau club avec des beaux joueurs qui sont quand même actifs sur le marché de transfert, qu'un club comme ça montre que voilà, c'est pas une Coupe d'Europe au rabais.
Damien, c'est vrai que les 6 titres, au bout d'un moment, ça veut dire quelque chose. Et il y a un homme derrière tout ça aussi. Il y a Lopetegui, il y a Monchi qui est revenu, qui a fait des recrues qui se sont tout de suite intégrées à l'équipe. Ça a fité. Excusez-moi pour le mot anglais. Ça a bien fonctionné très très rapidement. Et mais cette Europa League, globalement, a été quand même d'un très bon niveau. Et toutes les équipes que l'on peut voir à partir des quarts de finale, ce sont des équipes qui ont été reversées de la Champions League. Et c'est aussi représentatif que, si tu finis pas dans les deux troisièmes de ton championnat, tu as des difficultés derrière aussi à atteindre peut-être un dernier carré d'Europa League.
Est-ce que vous entendez derrière moi, c'est le bruit du graveur sur la coupe de l'Europa League. On est en train de graver le nom de Séville, bien évidemment. Jonathan, tu disais Lyon aurait dû gagner cette compétition depuis longtemps.
Je pense que la dimension, ouais.
Oui, bien sûr, mais je partage parfaitement cet avis. Ce que je veux dire, c'est qu'en creux, les clubs français devraient probablement vraiment la jouer. Allez, à l'exception du Paris Saint-Germain qui semble être taillé pour gagner la Ligue des Champions, est-ce que les clubs français ne devraient pas, plutôt que de vouloir systématiquement bien figurer, comme on dit, en Ligue des Champions, en sachant qu'ils ne la gagneront pas, se concentrer à proprement parler sur cette Europa League.
Mais je pense que c'est important de bénéficier de la vitrine Ligue des Champions pour exposer tes joueurs. Tu les exposes, ça peut suffire en phase de poule si tu... Voilà, de toute manière, vu l'indice UEFA, t'es obligé de... T'es jamais... À part le PSG, t'as aucune équipe qui échappe à un, donc t'es obligé de tomber contre des grosses équipes. Mais je pense qu'après, finir troisième, c'est quand même... Ça doit être un objectif, tu vois. Alors, je te dis pas, si tu peux passer, évidemment, tu passes, et tu fais, si tu peux faire une belle épopée comme Lyon. Mais je pense
C'est ça, Jonathan. Voilà. Tu vois, Bouddha, si t'as l'opportunité d'être second de ton groupe de Champions League, tu vas pas dire, tiens, je vais finir troisième pour avoir une chance de la gagner. Okay. Au bout d'un moment,
c'est difficile de se le dire, mais je pense que moi, je préfère que des clubs comme Lyon et Marseille terminent troisième de leur groupe et soient reversés dans une compétition qui est vraiment à leur mesure.
Est-ce que l'UEFA ne devrait pas un peu rééquilibrer les dotations ?
Et j'allais y venir, et je pense que la Ligue des Champions, alors on salue un petit peu le fait que ça soit plus ouvert, qu'il y ait plus de pays qui soient représentés, mais je pense que les dotations par pays devraient peut-être être un petit peu plus restreintes.
Ouais, d'accord, mais
peut-être rééquilibrer un peu plus pour l'Europa League, un peu moins pour la Ligue.
D'accord, mais tu crois que parce que tu vas rajouter, je sais pas moi, 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, t'as les clubs français qui vont passer des tours. Bah, moi ça je le
pense. Non, je dis pas qu'ils vont passer des tours. Simplement. Il y a des clubs qui pourront décemment se fixer en début de saison, se dire nous on veut remporter l'Europa League. Si tu dis ça, si tu t'appelles...
Mais pour quel type de club ? C'est ça que je comprends pas. Les clubs qui vont déjà jouer l'Europa League dès le départ ou les clubs qui sont reversés
aussi, aussi tu sais, moi,
si on prend l'exemple de Rennes cette année. Voilà, pour Rennes, oui, ça aurait dû être un objectif, cette Europa League.
Et
de mieux figurer qu'ils ont fait, de sortir des poules. Et donc, là, ils sont contents parce qu'en fait, ça leur donne raison, ils vont en Champions League en fin de saison. Mais si tu vas en Champions League pour faire quoi? Pour finir quatrième? Voilà. Tu vois, c'est là, la différence est là. Donc là, j'espère sincèrement que les Rennais vont montrer un très beau visage et qu'ils pourront au moins terminer troisième ou éventuellement second de leur phase de poule et qu'ils vont faire également les investissements pour. Mais au bout d'un moment, si tu peux la jouer, t'as Champions League.
Une remarque que tu faisais qui était très juste, c'était sur les équipes qui étaient reversées, qui d'abord font la Champions. Je pense quand même que l'Europa League, à la décharge des clubs français, il y a peut-être deux, trois choses à faire pour la rendre un petit peu plus attrayante et un petit peu moins fastidieuse, surtout au début. Phase de poule peut être un petit peu trop longue. Tu vois, prendre ça un petit peu plus sexy. Ouais, parce que là, tu vois, on a vu les matchs secs, concentrés. On s'est tous pris de passion pour l'Europa League, plus que si on a vu le format habituel.
Non, là, c'est sûr, ça. Là, je vous rejoins, c'est que le format actuel de cette Europa League, elle est jusqu'au mois de mars. En fait, elle te saoule plus qu'autre chose, quoi. Voilà.
Messieurs, pour nous accompagner, pour débriefer, ils sont là, ils sont pimpés, ils sortent de la télé. Ce sont nos drôles de dames. Bienvenue, Fred Hermel.
Hola, chicos.
Il est sobre. Il est heureux.
Mais non, je suis pas sobre du tout. Je suis super content. Parce que l'an dernier, j'ai eu une petite anomalie, j'ai pas été très bon. C'est pas parce que l'an dernier j'ai pas fait de finale qu'il fallait me dire ça y est, Hermel est mort. Non, ma Liga elle est là, ma Liga Espagnola. Et en plus en jouant un très beau football.
Bonsoir Yann Crochet.
Ami de la dépression, bonsoir.
C'est vrai qu'il y a des chats noirs des clubs italiens depuis que t'es arrivé.
Je suis une finale quand même.
Justement, on va commencer avec toi pour purger justement cette dépression et on finira sur le sourire enchanteur de Fred Hermel. On va parler de Conte. Moi, je l'avais mis dans mes trois points en disant que voilà, il a commencé la rencontre en faisant les bons choix tactiques et à partir de la mi-temps, il s'est planté. Alors que Lopetegui, il a su lui changer quelque chose à la mi-temps pour gêner Milan. Et ça, Conte n'a pas su le contrecarrer.
Alors, je trouve qu'il est dans les mêmes plans depuis le début de l'Europa League, c'est-à-dire bloc bas, on attend, sauf sur les phases de 6 mètres où là, il fait avancer tout le bloc.
Ils sont plus hauts,
exactement. Et une fois que la première ligne de passé, il se recroqueville, entre guillemets, tous en défense avec un bloc bas. Là où, en fait, Conte perd la bataille tactique, il y a deux points qui me semblent assez essentiels. Le premier, c'est que Séville est intelligent en mettant Banega sur Brozovic dans les sorties de balle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les centraux ont pu toucher Brozovic, qui est la première rampe de lancement sur les sorties de balle. Là où l'Inter est incapable de le faire, notamment avec un marquage individuel sur Banega, qui était libre d'aller où il voulait et se balader comme il voulait entre les lignes et même en allant sur les côtés, gêner et faire des deux contre un contre l'adversaire direct. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas réussi à... Je trouve que Séville a été intelligent en écartant au maximum les centraux de l'Inter.
Oui.
À chaque fois, Luc De Jong allait sur le côté et il y avait un joueur qui prenait la profondeur pour être entre eux. Généralement, c'était entre Godin et entre De Vrij. Et là-dessus, il n'a pas su trouver de réponse. Et troisième chose, quand même, j'en ajoute une troisième, c'est ces changements qui sont très tardifs. Notamment Gagliardini qui fait un match affreux, mais vraiment affreux.
Merci pour le tirage de maillot sur le troisième but de Séville.
Qui devait sortir déjà depuis 20 minutes, 30 minutes, etc. Qui passe totalement à côté.
Même Barella.
Et qui, en plus, freinait toutes les sorties de balles. C'est-à-dire que Gagliardini, si vous prenez, je pense, sa hitmap, entre guillemets, de passe sur la finale, elles sont toutes vers l'arrière. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait aucune verticalité dans le jeu de l'Inter qui est pourtant d'habitude une force.
Fred, c'est aussi le succès de Lopetegui, je parle du duel tactique.
Avant tout, et on connaît toute l'histoire, et pour ceux qui, si jamais ils découvrent le foot ce soir, c'est quand même un type qui pleurait à la fin. Et dans sa tête, c'était le Mondial où il est viré deux jours avant le début. C'est le Real où il est viré au bout de quatre mois salement. C'est sa belle revanche quand même, hein, sincèrement. Parce que Lopetegui, qui est un grand entraîneur, on ne l'a pas dit assez, qui avait quand même une petite réputation de loser avec ce qui s'est passé. Mais il n'avait pas été chanceux. Puis surtout, il avait été assez maltraité. Là, ce soir, tactiquement, c'est très fort. Parce que Luc de Jong, sincèrement... il n'était pas titulaire. Et là, ce soir, il rentre parce que il pense que de la tête, il peut faire quelque chose et il met deux buts de la tête, quoi. C'est-à-dire que ça aussi, il y a une recherche d'entraîneur. On dit oui, Conte a étudié le match. On en parlait juste avant. Il étudie beaucoup. Mais Lopetegui, lui aussi, là, il a beaucoup étudié le match. Donc c'est la revanche de Lopetegui qui démontre enfin qu'il est un immense entraîneur.
Pour aller dans le sens
en tout cas, un très grand entraîneur.
Dans le sens de Fred, Luc de Jong, que j'ai beaucoup suivi dans le championnat des Pays-Bas, sa dernière saison au PSV, c'est 16 buts sur 32 de la tête. Toutes compétitions confondues. Et sur son passage au PSV, c'est 50 buts sur 112 de la tête. Ça vous laisse imaginer quel type d'attaquant c'est.
Mais justement, et donc, et Lopetegui a été très bon aussi parce qu'il a tout de suite ciblé que de toute façon, ça allait être la solution allait passer par des centres, par les côtés. Et
c'est vrai que quand t'as d'un côté Navas, de l'autre côté Reguilón. C'est vrai que De Jong, tu sais qu'il va avoir des
surprenant, c'est la passivité de l'Inter dans le domaine aérien. Les coups de pied arrêtés, c'est un sketch. Je veux dire, au bout d'un moment, et ce qui est encore le plus dur, c'est de se dire que t'as l'Inter qui a encaissé 3 buts. Mais depuis quand t'encaisses 3 buts?
Johan, en un seul mot, est-ce que le football italien va se remettre en question? Nous en France, quand on a personne comme ça qui gagne, on dit on est à chier et que la Ligue 1 est nulle. Est-ce que la Serie A va se poser cette question?
Non, parce qu'au final, tu fais quand même une finale. Donc non, tu te diras pas ça. Et puis il y a un changement qui a été amorcé quand même. On voit des entraîneurs émerger comme Gasperini, comme Roberto De Zerbi à Sassuolo. Donc le changement, il en marche depuis quelques années et il va falloir attendre que ça prenne correctement, que les projets se mettent en place, parce que changer de propriétaire sans arrêt aussi, c'est une autre donnée du foot italien. Et j'ai dépassé le mot.
Et puis la Juve qui est un petit peu la vitrine du football italien. De toute manière, cette saison, c'était une saison erreur de casting, très bon entraîneur mais pas adapté à la situation.
Il y a eu une déception, c'est la Juve cette saison.
Ouais, mais c'était couru d'avance un petit peu. Fred, le mariage n'allait pas de base.
Je vais te provoquer un petit peu. Est-ce que Séville vient cacher la misère ou
Non, tu peux pas dire que c'est la misère. Non. Quand tu joues ce football-là, tu caches pas la misère. Je le disais dans un after là avant le début de cette phase finale de Ligue des Champions de l'Europa. Moi, je pense sincèrement que le niveau de compétitivité d'un championnat ne se voit pas avec la Ligue des Champions, mais avec la Ligue Europa. Parce que dans tous les clubs, t'as un ou deux gros clubs qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Dans tous les pays, dans tous les championnats, t'as un ou deux gros clubs avec de l'argent qui peut gagner la Ligue des Champions. Là, c'est le quatrième. C'est une équipe. Qui, à mon sens, représente ce qu'on aime du football espagnol.
Ouais, alors,
une bonne formation et puis un jeu quand même
recrutement extraordinaire.
Mais le jeu de Séville, c'est quand même en gros ce qu'il y a en Espagne. C'est-à-dire un jeu équilibré. On fait pas n'importe quoi défensivement comme en Allemagne par exemple, et on met beaucoup de buts. Voilà.
Merci beaucoup Fred d'avoir été avec nous. Fredo. Je crois qu'on va devoir te libérer. Johan, tu restes un petit peu plus pour débriefer ce match.
Je vais aller à la télé, hein, c'est ça. Voilà. J'explique aux gens.
Si vous voulez voir la magnifique,
je vais faire mon pan à la télé.
Habillé comme ça, tu vas à la télé, Fred?
Je me suis habillé style Federico, le nouveau chroniqueur de la télé.
Arnaud Valadon est toujours à Cologne pour nous faire vivre la remise du trophée et tout le protocole des médailles vient d'être effectué. Merci beaucoup Fred, à très vite.
Adios.
Arnaud, c'est à toi.
Et un protocole assez classique, voilà, les perdants très tristes, recevoir la médaille des mains d'Alexander Seferi, le président de l'UEFA. Et ça y est, Séville qui brandit le trophée. Ils l'ont tous embrassé, les joueurs de Séville, après avoir reçu leur médaille. Et Jesús Navas, le capitaine, qui brandit le trophée dans un stade vide, évidemment, à Cologne. Et ce beau champion vainqueur de l'Europa League 2020, qu'est le FC Séville. Bravo. Et Jesús Navas qui soulève le trophée. Et on parlait tout à l'heure des loser un peu, de la réputation de loser de Lopetegui. Il y en a un côté Inter qui est pas mal, c'est Christian Eriksen. Il y a un peu plus d'un an, il perd la finale de la Ligue des Champions et là aujourd'hui il perd la finale de l'Europa League.
Exactement.
Et voilà, les Sévillans vraiment heureux. On voit le président du FC Séville avec Rulén Lopetegui, les confettis, il y a tout sauf le public pour cette célébration, cette joie et ce trophée brandi par le vainqueur 2020 de l'Europa League, le FC Séville.
Merci beaucoup Arnaud Valadon de nous avoir fait vivre cette rencontre. On va accueillir Marc qui est supporter du FC Séville au 32-16. Salut Marc, comment ça va?
Salut les gars.
Salut Marc.
Un habitué de l'after. On imagine ton immense joie là au regard des images que tu peux voir sur RMC Sport. Hein.
Le bonheur et le savoir en fait, parce que j'étais persuadé que ça allait se passer comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est la victoire d'un groupe et d'une équipe. Et c'est une triptyque que Monchi avait prévue depuis août 2019. Hein, la triptyque recrutement, coaching et esprit d'équipe. Et ça a fonctionné. Et bravo à cette équipe et bravo à Roland Lopetegui qui fait un travail extraordinaire cette année.
Il y a un joueur que tu as envie de ressortir dans cette finale ?
Banega, ouais. parce que ce qu'il fait pour son dernier match... Le jeu court, le jeu long.
Ça, évidemment, ça, c'est sa marque de fabrique d'arriver à imprimer le rythme à une rencontre. Mais j'ai trouvé que dans l'engagement, dans le volume de jeu, dans les replis défensifs, il a été surtout énorme. Plusieurs fois, je l'ai vu au niveau de sa défense centrale revenir pour assurer la première relance et à la fois sur la même action arriver à quand même être dangereux aux abords de la surface adverse. Pour un joueur qui a une réputation de ne pas avoir de coffre, il a montré voilà que sur son dernier match, il clôture de la meilleure des manières sa carrière en Europe. Qui aurait pu être meilleur avec un peu plus de sérieux lors de ses premières années en Espagne. Mais c'est un joueur magnifique et ça fait plaisir de le voir voilà pour son dernier match.
Quel symbole aussi de revoir les yeux cristallins de Navas comme ça lever cette coupe et pétiller à nouveau. Lui qui a tout connu avec ce club qui aujourd'hui est capitaine. C'est plus que chouette. On a vu également De Jong être extrêmement heureux tout à l'heure. Il dansait avec cette coupe, forcément marqué deux buts dans une finale. J'imagine que c'est difficile de rêver mieux.
Et puis Ocampos, ça devait être un des Marseillais les plus malheureux le soir de la finale contre l'Atlético. Là, il arrive à gagner un trophée européen. Chapeau.
Marc, c'est de bon augure pour la construction du FC Séville. On l'a dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des cadres qui étaient partis. Est-ce qu'on peut déjà se projeter sur l'avenir? Est-ce que finalement cette coupe est celle d'un début de cycle?
Ouais, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on gagne l'Europa League. Donc il faut rester froid et rationnel par rapport à ce point-là. C'est que maintenant, il faut passer le cap de gagner l'Europa League. Il faut maintenant commencer à figurer de façon importante en Champions League. Et j'espère que Monchi a appris de ses mercato précédents. Quand on a gagné l'Europa League, il a essayé de construire une équipe capable de lutter en Champions League. Et ça c'est dans les mains de Monchi maintenant.
Ouais, mais justement, dans les mains de Monchi, il va peut-être avoir de la tentation de vendre. J'espère qu'il va conserver cette équipe. Allez sur plusieurs années.
Mais Damien.
Mais c'est ça le problème.
Mais si,
c'est un problème au bout d'un moment. Toi, t'as quand même la base pour faire un truc exceptionnel en Ligue des Champions et même dans la Liga. Et oui, c'est vrai, il va faire des découvertes. Il a gagné l'Europa League. On peut rien lui reprocher. Mais au bout d'un moment. Tu fais passer où le côté sportif, l'enjeu?
Bien sûr, mais je pense que quand tu regardes les mercato sévillans, et notre auditeur nous confirmera, il y a quand même, en général, c'est un voire deux joueurs maxi partent, et puis t'en as toujours une palanquée qui arrive, et dans la palanquée, t'as toujours des très bons coups.
Je vous interromps juste pour vous commenter un peu l'émotion là des joueurs. On voit Reguilón qui est au sol, vraisemblablement en visio avec. Je sais pas ce qu'on a mis des proches, sa femme, la famille, peu importe, qui est littéralement en larmes. On a vu Vaclik, qui est habituellement le gardien titulaire de cette formation, qui était resté assis sur le podium, qui laissait les autres fêter cette victoire. Lui qui était donc remplaçant pour cette rencontre, puisque en Europa League, c'est Bounou, qui a d'ailleurs été exceptionnel sur l'ensemble de cette compétition, qui était titulaire. Et on l'a vu en discussion pendant une bonne minute avec Lopetegui, et finalement, il a retrouvé le sourire, il a accepté, voilà, il est pas resté boudeur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer du côté de cette formation de Séville. C'est en tout cas ce qui ressort de ces images qu'on est en train de voir sur RMC Sport. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous. On te laisse fêter ça tranquillement.
Avec plaisir.
Voilà, le respect des distanciations et surtout n'oublie pas, t'as pas le droit de mettre le maillot du Paris Saint-Germain si t'es sur la Canebière. Hein. Voilà, mais je sais que t'es pas là-bas, t'es plutôt en Moselle.
T'étais levé ça, non?
Ouais, c'est levé. Ouais, non, mais fallait juste mettre un tac parce qu'il y a quand même des idées.
Bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous, Johan. Pour parler un petit peu de cette formation italienne, Antonio Conte, ça commence à ressembler doucement mais sûrement au Beautiful Loser, là, au perdant magnifique.
Oui et non, parce que quand même, entre 2012 et 2020, il fait 4 championnats avec 2 ans en sélection. Ouais. Donc, c'est pas anodin non plus. Après, oui, effectivement, ce match-là, il est un peu pour lui, globalement. Néanmoins, il faut aussi regarder d'où vient l'Inter,
bah oui,
le travail accompli depuis le début de la saison. Il faut quand même regarder que dans cette équipe, il y a des joueurs qui peuvent s'estimer heureux d'être en finale de la Ligue Europa. Je pense à des joueurs assez moyens comme Gagliardini, comme D'Ambrosio, comme Godin qui ressort de nulle part et qui fait globalement pas une bonne phase finale d'Europa League.
Pas une bonne saison tout court.
Pas une bonne saison tout court et pas une bonne phase finale d'Europa League. Donc il y a encore pas mal de boulot sur l'effectif de l'Inter. On sait que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il demande à ses dirigeants. Là, ce soir, il y a les regrets. À partir de demain, il y a les premières réunions avec le président Zhang de l'Inter pour voir, suite à la sortie de fin de championnat où il avait critiqué ses dirigeants, le manque de moyens, le manque d'ambition. On verra comment ça va évoluer. Ouais, mais
c'est difficile de critiquer Antonio Conte quand on prend la saison dans son intégralité. Tu l'as très justement dit, quand tu prends l'Inter, l'Inter c'est un club qui est en train de sombrer dans les, allez, pas dans les oubliettes, mais dans le, vraiment dans le, les clubs moyens du championnat italien, totalement dépassé, que ce soit par les Napoli, surtout par le Napoli ces dernières années. C'est plus du tout une place forte du football italien. Et là quand même, tu te dis que ils ont lutté jusqu'au bout, ils ont quand même lutté un bon moment avec la Juve en championnat. Je pense que si on avait dit ça aux supporters de l'Inter à la fin de la saison dernière, jamais ils l'auraient cru. Là, ils font une finale de coupe pour la première saison. Je pense que c'est quand même très très solide ce qu'il a fait.
C'est un bon début de cycle. Moi, ma seule interrogation, c'est, on sait que Conte est très bon pour démarrer des cycles. Est-ce qu'il peut amener beaucoup plus loin cette équipe-là? J'ai quelques...
Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que si tu me dis, est-ce que Conte est capable de mettre en place un très beau, un projet de jeu et que l'Inter devienne une équipe frisson en termes de jeu sur la scène européenne, je te dirais non.
Mais est-ce qu'il est capable? Il a un projet de jeu, là.
Ouais. Oui, mais
c'est pas forcément exceptionnel.
C'est pas dans les canons de beauté, tu vois, auxquels on peut s'habituer. Par contre, en revanche, si tu me dis, on me demande, est-ce que Conte est capable de refaire de l'Inter l'année prochaine champion d'Italie, beau parcours en Ligue des Champions, je te signe ça dès demain.
Ouais, juste un truc quand même pour revenir sur l'ensemble de la saison, c'est que cette phase finale, faut pas qu'elle efface tout ce qui s'est passé avant. Et notamment en termes de jeu, l'Inter, c'est quand même une équipe qui met 111 buts, toutes compétitions confondues cette saison. C'est une équipe qui a dominé le Barça au Camp Nou. Alors certes, c'est pas le grand Barça, mais sur une mi-temps, ils les ont trimballés. Ils ont trimballé Dortmund aussi sur une mi-temps en Ligue des Champions et au match retour. Donc effectivement, c'est pas encore un top club. Je suis d'accord que sur cette phase finale d'Europa League, il y a eu clairement un projet qui a été défini. Et c'est d'ailleurs pour ça que Godin joue, c'est parce que c'est bloc bas et qu'il faut contrôler et jouer très verticalement sur Lukaku. Ok, c'est pas hyper ambitieux en soi. Pour autant, sur le reste de la saison, il y avait quand même des choses à voir. Conte, c'est pas l'entraîneur le plus incroyable en termes d'esthétisme dans le football, encore que ça se discute. Mais c'est pas un entraîneur qui a été inspiré par Cruyff, c'est un entraîneur qui a été inspiré par Trapattoni, donc qui a été entraîné par Lippi, qui a gagné avec Lippi. Donc ça vous donne un peu l'ADN de cet entraîneur-là. Ça sera jamais un Guardiola, ça sera jamais un Roberto De Zerbi, ça sera jamais un Gasperini.
Disons que c'est un entraîneur qui va toujours s'adapter à l'opposition et à l'adversaire qu'il aura en face de lui.
Ouais, et puis c'est un entraîneur qui fait quand même progresser les joueurs. Prenez D'Ambrosio il y a 2 ans et D'Ambrosio aujourd'hui. Prenez Alexis Sanchez l'année dernière, prenez Sanchez aujourd'hui. Prenez Lukaku l'année dernière, prenez Lukaku aujourd'hui. Prenez Gagliardini, même qui est pas bon cette saison, mais il est quand même meilleur que la saison d'avant. Il y a plein de joueurs. Ashley Young qui est à la cave à United, il revit sous Conte. Il y a plein de joueurs qui ont progressé. Donc quelque part, c'est aussi la marque d'un entraîneur.
Mais la frustration, elle peut être là aussi, justement.
C'est-à-dire
que quand tu vois ce dont ils ont été capables lors de la phase, on va dire, de septembre à...
En Ligue des Champions.
Toi, et je me souviens, au début, tu regardais les matchs de l'Inter uniquement pour voir le jeu offensif de Conte.
Les sorties de balles de Conte, des équipes de Conte.
C'est-à-dire que, pour te dire que c'était attrayant à regarder. Et c'est vrai qu'il est retombé dans plus de pragmatisme, encore une fois... Après, c'est encore le match qui va gagner contre le Shakhtar. C'est une masterclass tactique. Il n'y a pas de problème là-dessus et on est les premiers à le reconnaître.
Mais le 5-0 est très flatteur.
Et aussi parce qu'il a les individualités pour exploiter les faiblesses. Mais c'est vrai que je termine rapidement. Mais c'est vrai que on est avec les joueurs qu'il avait. On aurait tellement aimé voir l'exemple que tu as donné, le Barça. Quelle équipe! Quel jeu il a produit, Barça Dortmund, c'était du régal à regarder.
Il y a un truc qui, je pense, l'a vraiment freiné dans l'élaboration du jeu, c'est le milieu de terrain, c'est la blessure de Sensi, qui est un joueur merveilleux quand il a le ballon au pied.
On va rejoindre Andrea qui nous a appelé au 32-16. Salut Andrea, supporter de l'Inter.
Oui, bonsoir l'After.
Salut Andrea.
Comment ça va, Andrea.
Bonsoir l'After, pour cette première fois dans l'After.
Bienvenue.
Pour l'Inter.
T'es déçu, on l'imagine, ouais.
Beaucoup déçu, je m'attendais à mieux. La stratégie de Conte sur ce match m'a beaucoup déçu.
À quel niveau, André?
Il a joué bloc trop bas, bloc bas, en jouant sur les contres.
Ouais, mais comment tu les marques, les buts
du jeu, très technique. Et...
Andrea, comment tu les as marqués, tes buts? Le pénalty, tu l'as créé comment?
Andrea, juste avant de répondre, si tu peux juste baisser de la radio qui est derrière toi, voire l'éteindre, parce que ça te facilitera pour parler, et puis nous, on t'entendra mieux. Du coup, la question de Damien sur justement les choix techniques de Conte.
Non, je te disais, les opportunités que l'Inter a eues ce soir, aussi bien... Le penalty concédé par Diego Carlos, tu vois, viennent aussi du fait ensuite le face à face que Lukaku rate contre Bounou. Toi, c'est t'as un Inter qui est bloc bas et les meilleures opportunités de l'Inter, et contre le Shakhtar c'était la même chose. C'est du pragmatisme, encore une fois. Ça nous embête, c'est pas super beau, mais c'est efficace, normalement.
La vraie déception, Andrea, je pense, c'est surtout sur de prendre des buts à chaque fois sur le jeu aérien.
Et c'est ça,
où t'as des joueurs qui sont normalement dominants.
Des buts arrêtés, des buts évitables, avec un Andanovic que j'ai pas trouvé, qui a fait une très bonne saison en Serie A, dont nous avons la meilleure défense cette saison. Des buts évitables, un Andanovic très fébrile ce soir. Très déçu. Je m'attendais à mieux pour ce match. C'est une équipe de Séville très difficile à jouer. Je m'attendais avant le début du match à un match très compliqué face à cette équipe qui vient de remporter sa 6e Ligue Europa.
Merci beaucoup, Andrea, d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur et puis respire un bon coup, parce qu'on a quand même l'impression que l'Inter est au début d'un cycle qui devrait l'emmener vers peut-être pas des sommets, mais en tout cas vers des belles saisons à venir et mettre fin aux années de disette. Merci beaucoup, Andrea. À très bientôt dans l'After. Tu reviens quand tu veux.
Excusez-moi, nous espérons remporter la Serie A.
On imagine. Voilà. Moi, tu vois, je supporte le Torino, j'espère remporter la Serie A. Ça n'arrivera pas, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Andrea.
Rapidement, c'est vrai, sur Conte, c'est facile de critiquer les choix tactiques à la fin du match. Oui, on a reconnu qu'il ne s'est pas adapté en cours de partie à ce qu'avait proposé Lopetegui. Mais les choix initiaux tactiques de Conte sont dans la lignée de ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant.
Exactement.
Ouais. Et étaient les bons, en vrai.
Merci beaucoup, Yann Crochet, d'avoir été avec nous. On te souhaite une excellente soirée. Et puis, Forza.
On tient le coup pour la semaine prochaine.
On tient le coup.